Radio Gouingouin pour rester serein.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Gouingouin. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis l'animatrice de la Radio Gouingouin, la radio de l'hôpital Gouin, et je suis avec mon coéquipier Quentin. Bonjour Quentin.
Salut Joséphine.
Comment vas-tu Quentin aujourd'hui?
Bah écoute, très heureux d'être là.
Bah ouais, toujours très contente de t'avoir à nouveau pour la Radio Gouingouin.
Ah, merci.
Alors aujourd'hui, nous avons des invités. La première invitée, Aline.
Aline, voilà, donc je m'appelle Aline, je travaille à l'hôpital Gouin.
Enchantée, Aline, voilà. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va, tout va bien.
Bon, tant mieux.
Bien.
À côté de Aline, nous avons Christian.
Christian, donc, oui, bonjour, je suis retraité Air France.
D'accord, enchantée Christian. Et vous êtes patient à l'hôpital Gouin, c'est bien ça?
C'est cela.
Super. Comment ça va aujourd'hui?
Ah, ça va.
Ça va?
Quelques petits soucis annexes, mais ça va.
D'accord, ok. Et à côté de Christian, nous avons Ibrahim.
Bonjour.
Bonjour Ibrahim, comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien. Je suis un patient de l'hôpital Gouin. Et tout va bien pour moi.
Ah bah tant mieux. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous a invités pour parler d'une thématique, d'un sujet, celui de la stomathérapie. En effet, à l'hôpital Gouin, on a plein de services différents et on a un service de gastro-entérologie. Où on accueille, je pense, une quinzaine de patients.
Beaucoup plus.
À ton avis, combien de patients on accueille en service de gastro-entéro?
Mais actuellement, au deuxième étage, on a une bonne quinzaine.
Ah, c'est ça, une bonne quinzaine au moins.
Et au premier étage, on a deux patients.
Ah oui, donc en fait, voilà. Ça varie à chaque fois.
Exactement.
Et donc, aujourd'hui, on va vous parler de la stomathérapie et plus particulièrement du sujet de comment c'est de vivre avec une stomie. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Aline. Du coup, comme tu disais, tu es stomathérapeute.
Voilà, donc je m'appelle Aline, je suis stomathérapeute à l'hôpital Gouin. Stomathérapie, ça veut dire quoi? C'est sûr, vous allez me poser la question. Mais la stomathérapie, il y a trois volets. Il y a l'estomie, il y a la cicatrisation et les troubles de la continence.
Ok.
Donc, voilà, donc des fois, il m'arrive de m'occuper des patients qui ont en même temps une stomie, une plaie et en même temps des sondes.
D'accord.
Donc, voilà.
C'est une branche de l'infirmerie ou de la médecine, du coup, la stomathérapie?
Alors, à la base, moi, je suis infirmière, donc diplômée. Et j'ai fait une formation, j'ai fait un certificat clinique en stomathérapie dans une école de stomathérapie à Paris. Donc, j'ai eu mon diplôme. Et donc, c'est ce qui me permet de faire toutes ces compétences, tous ces trois volets, ces axes. Ça me permet de former les équipes, de prendre en charge les patients stomisés, de faire des éducations thérapeutiques, voilà.
Okay.
De gérer tous ces volets-là.
D'accord, ok. Et donc, du coup, la stomathérapie, c'est pas juste s'occuper des patients qui vivent avec une stomie? Ça va plus loin que ça ou...
Ah, ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, au-delà de ce que je fais à l'hôpital Gouin, ben, je travaille aussi. Des fois, ça m'arrive de donner des cours à l'extérieur, dans les instituts de formation. Bon, je fais des audits, je participe au congrès, je travaille beaucoup avec des laboratoires, des prestataires. Je fais des consultations externes dans l'hôpital. Donc, les patients qui sont sortis de l'hôpital, je peux les revoir en consultation un mois après la sortie, s'ils sont d'accord, bien sûr, et s'ils habitent à côté.
D'accord.
Donc, et en même temps, ces patients qui sont rentrés chez eux, ces patients qui sont partis de l'hôpital, mais je travaille en collaboration avec les médecins généralistes, les maisons de retraite, les cliniques, les infirmières libérales, les familles. Donc, je suis vraiment au centre. Je travaille avec toutes ces populations pour... essayer de répondre aux questions des patients pour une bonne prise en charge, même après la sortie de l'hôpital, ça continue.
Ah oui, donc c'est vraiment un sacré suivi d'être stomathérapeute et vraiment dans la vie des personnes qui vivent avec une stomie.
Exactement.
Okay. Donc, et pour vous, messieurs, du coup, quand on vous parle de stomie, de stomathérapie, vous, comment vous expliqueriez à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la stomie? Qu'est-ce que vous diriez? Ce serait avec vos mots. Comment vous expliqueriez ça?
Personnellement, je dirais, moi, si on est pris en main par une professionnelle comme Aline, tout va bien.
Mais
on
comment est... vous expliqueriez ce que c'est qu'une stomie? Par exemple, moi, je viens de voir, je vous dis, Ibrahim, qu'est-ce que c'est que d'avoir... C'est quoi une stomie? Qu'est-ce que vous diriez?
En termes spécifiques, ce que
pour
c'est...
Pour vous, avec vos mots.
Pour moi, c'est plutôt mes intestins qui sont... Ils sont cousus, on va dire, au niveau de mon abdomen. Et... Au lieu d'aller au sanitaire comme tout le monde, ben, tout sort de la stomie. Et c'est pas désagréable quand on fait les soins correctement par des professionnels, on est bien pris en charge. tout va bien. En vrai, c'est, on peut vivre de ça sans problème. Mais si j'ai eu l'expérience auparavant d'avoir une infirmière qui n'était pas formée en stomie, qui n'avait aucune connaissance pour pratiquer les soins, du coup, c'est un désastre. En 4 jours, j'avais une inflammation de la peau. Je ne pouvais plus bouger, je n'étais vraiment pas bien.
Oui, c'est vraiment important de connaître ce domaine-là.
Voilà, c'est très important.
Et pour vous, Christian, si on, vous deviez expliquer ce que c'est qu'une stomie.
Moi, je prépare de mes vieux métier de tuyauteur. C'est simplement que l'intestin est débranché, coupé. Et au lieu que l'évacuation se fasse par les voies naturelles, ça se fait par le ventre.
C'est une très bonne image, dis donc, c'est efficace comme définition. Parce que du coup, je voyais, tu me disais auparavant, Aline, qu'en fait, stomie, le mot vient du grec.
C'est ça.
Stoma.
C'est ça. En fait, stomie, ça veut dire quoi? Je vais vous donner la définition de stomie. En fait, on appelle ça un abouchement, parce que c'est comme une bouche. Et en grec, bouche, ça veut dire stoma. D'accord? Donc, je vais vous donner une bonne définition. En fait, que moi je connais, que je sais que c'est vraiment une très très bonne définition. La stomie, ça veut dire quoi? C'est l'abouchement chirurgical, temporaire ou définitif, d'un organe creux à la peau. L'organe creux, ça peut être l'appareil digestif ou l'appareil urinaire. Donc l'organe creux à la peau en vue d'évacuer quoi? Les selles ou les urines, qu'on appelle les effluents. Et en même temps, cette stomie, elle peut être temporaire ou définitive, en fonction de la pathologie du patient, en fonction des complications, en fonction de la situation.
Alors moi, c'est ça ma question. Plutôt la question pour d'abord Ibrahim et Christian. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir une stomie? C'est quoi les... dans le public, on a des téléphones qui sonnent dans le public. Comment est-ce que on arrive à avoir une... Qu'est-ce qui se passe pour arriver à avoir une stomie, pour en arriver à avoir une stomie?
Pour ma part, c'est assez compliqué, parce que au départ, je devais être opéré pour une ablation de l'intestin sur une longueur d'à peu près 15 cm, et je devais sortir pratiquement au bout d'une semaine, dans ces cas-là, on coupe, on fait l'ablation et on reboot comme pour un tête de métier, on remet les éléments ensemble, tandis que moi, j'ai eu des complications. Après une inflammation et plus donc qui m'a conduit, donc ça c'est pas le côté agréable, qui m'a conduit en réanimation.
D'accord.
Ah oui. Et donc je me suis retrouvé avec une stomie à cause de ça. Et donc pour l'instant, ce qui devait durer une semaine, j'en suis rendu à 3 mois quoi d'hospitalisation.
Mais donc c'est une stomie temporaire pour vous.
Et donc c'est une stomie temporaire. Je revois le chirurgien la semaine prochaine pour définir une nouvelle opération. Qui aura lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre.
Ok, d'accord. Et pour vous, Ibrahim?
Alors moi, c'est un matin, c'est plutôt le soir. J'ai eu une douleur abdominale qui faisait vraiment mal sur le cou. Alors je me suis fait un petit verre de lait chaud. Je suis parti dormir avec ma petite bouillotte. Le matin, à 7h du matin, j'ai la douleur qui était vraiment beaucoup plus forte. Je suis allé aux urgences. Des urgences, j'ai passé toute la journée là-bas. Et ensuite, j'ai été transféré à l'hôpital Beaujean. J'ai eu un infarctus mésentérique.
Waouh, ok.
Ouais, j'ai eu ça et on m'a aboli 1,80 m d'intestin. La douleur, elle est partie, 80% de ma douleur est partie sur le cou, après l'opération.
Ok.
Et ça arrivait comme ça pour moi, l'astomie.
Ouais, du jour au lendemain.
Du jour au lendemain. Et on ne sait toujours pas...
Pourquoi? Ce qui s'est passé, ouais. Comment? Et vous, vous savez si c'est une stomie temporaire ou pas que vous avez?
Normalement, elle est temporaire. Si tout va bien, au mois de juillet, je vais être opéré. Et ça fera plus de 3 mois,
plus de 3 mois et demi. Du coup, Aline, en général, les stomies, elles peuvent être temporaires. C'est plutôt temporaire, c'est plutôt définitif ou ça dépend de...
Alors, ça dépend des pathologies. Là, on parle de stomie digestive.
Ok, d'accord.
Je vais parler d'abord des stomies digestives. Ça peut être temporaire ou définitif, en fonction de l'emplacement, si c'est un cancer, si c'est la maladie de Crohn, si c'est une péritonite, l'infarctus mésentérique, l'anastomose, vous voyez, il y a tellement de conditions, donc ça dépend. Donc souvent, c'est souvent temporaire et après, ça peut devenir définitif en fonction de la guérison du patient.
D'accord.
Donc tout à l'heure, pour rebondir un peu à ce que Christian disait tout à l'heure, l'intervention, même les deux patients disaient tout à l'heure, l'intervention, ça s'appelle le rétablissement de la continuité. C'est-à-dire la présence de l'astomie c'est une intervention de la continuité. On coupe une partie de l'intestin qu'on met au repos, on soigne le patient, on attend que ça se guérisse et après on fait le rétablissement de la continuité.
D'accord.
D'accord. Donc la stomie, c'est pas parce qu'un patient a une stomie que tout de suite c'est définitif. Mmh. On part toujours du temporaire et c'est le chirurgien qui décide en fait.
Vous vouliez rebondir, Christian ?
Non, je voulais simplement préciser que c'est suite à une coloscopie. Et
d'accord.
Donc la coloscopie a détecté une tumeur
d'accord.
qui, a priori, après analyse, n'était pas cancéreuse.
Mmh.
Et c'est ce qui m'a amené à cette ablation
okay.
pour enlever la tumeur.
Oui, on préfère enlever la tumeur.
Voilà.
D'accord, ok. D'accord, oui, vas-y, je te
Alors, je reviens un peu sur l'intervention de Christian. Alors, donc, quand il y a une tumeur et qu'on fait l'ablation de la tumeur, ben souvent, il y a des séances de chimiothérapie ou de radiothérapie, ça dépend. Est-ce que vous avez...
Non,
pas...
D'accord, parce que l'analyse, donc... l'analyse de la tumeur a été faite en laboratoire
mm-hmm.
et donc elle est classée. Alors, elle est classée T1, parce
okay.
qu'il y a plusieurs classifications
oui, oui,
au
oui.
niveau cancer. Et c'est T1, donc c'était un début
d'accord,
de cancer
ouais,
qui nécessite pas de traitement après.
Mmh, okay. ok, donc c'est pour ça, là, c'est temporaire pour lui, donc il va être rétabli bientôt. Parce que c'est vraiment en fonction de la grosseur de la tumeur et de l'évolution.
Donc ça, c'est donc, quand c'est autour du cancer. Ça, mais après, tu peux avoir aussi une stomie pour la maladie de Crohn, tu disais.
La maladie de Crohn, les rectocolites hémorragiques au niveau du côlon.
C'est des mots qui sont un peu impressionnants, qui font un petit peu peur.
C'est les maladies, tout ça, c'est les maladies inflammatoires chroniques de
d'accord.
l'intestin.
Ok, d'accord.
Donc c'est vraiment... Bon, on peut avoir des stomies pour tout, hein, même l'appendicite, hein, péritonite, voilà, simple douleur abdominale. On peut avoir des stomies pour tout.
Est-ce qu'on considère que lorsque vous avez une stomie, on considère que vous avez un handicap ou pas ?
Alors, ça c'est une très bonne question.
Selon vous, déjà pour vous Ibrahim et Christian, est-ce que vous dites avec une stomie, je considère que j'ai un handicap ou pas ?
Le handicap, c'est la surveillance de cette poche. Puisque j'ai eu des débuts un peu difficiles, dans le sens où la poche ne tenait pas et s'arrachait très, très, très facilement.
Mmh. D'accord. Okay.
Donc, quand ça vous arrive en pleine nuit, j'ai des souvenirs assez affreux. Mmh. Parce que quand ça vous arrive en pleine nuit, parce qu'il y a tout. Bon, j'imagine, il y a une période où il faut trouver ses marques. Et donc, moi, ça a été quand ça arrive plusieurs fois. La semaine dernière, la poche, il a fallu la changer trois fois dans la journée, pratiquement, parce que j'ai fait une allergie à la colle utilisée.
Ah oui, d'accord.
Donc,
ouais.
ça tenait plus. Donc, elle s'arrachait. Donc, c'est le côté un peu perturbant, quoi. C'est, voilà. Après, a priori, là, on a trouvé la bonne poche. Oui. Elle a l'air de tenir, puisque là ça fait trois jours qu'elle est installée.
Mm-hmm.
Donc, il y a aussi le côté perturbant, c'est le changement de la poche. Aussi.
D'accord, ok. Ça, ce serait pour vous, ce serait plutôt ça, l'aspect handicapant de votre stomie.
Bah, c'est ça, c'est le suivi, c'est que on n'est pas libre de ses mouvements, quand même.
Et pour vous, Ibrahim ? Est-ce que vous considérez que avoir une stomie, c'est une forme de handicap ou pas pour vous ?
Je suis d'accord avec monsieur.
Et, avec Christian.
Ouais. Christian, pardon. Et ce que je peux dire, c'est vrai qu'il y a des complications aussi avec les stomies. Par exemple, moi, j'ai eu un abcès,
mm-hmm.
une désunion, un méchage. Et il y a une douleur complémentaire. Et de temps en temps, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ça fait mal. Il y a des moments, ça fait vraiment mal. On n'est vraiment pas bien. Ça fait quand même un handicap quelque part, effectivement.
La douleur est handicapante.
Ouais, alors la douleur, elle est handicapante. Et aussi, on a des difficultés, par exemple, à se baisser, à prendre quelque chose. Il y a un handicap minime, mais il y en a un,
selon
effectivement.
Vous, ouais. Et du coup, selon toi, Aline ?
Alors, donc, du coup, ils ont bien répondu selon leur expérience. Mais là, franchement, c'est selon chaque patient. C'est le patient qui porte la stomie. Donc, moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas handicapant. Si je dis ça, c'est que j'ai tout faux. Parce que c'est le patient qui porte la stomie. Et c'est pour ça, c'est bien d'avoir une spécialiste, comme ils ont dit. Parce que moi, quand j'arrive dans les chambres et on me dit il y a des fuites, il y a des insertions, il y a des rougeurs. Mais moi, avec la formation que j'ai eue, je sais les repérer. Les complications, c'est vraiment mon truc. Dès que je suis arrivée dans la chambre de Christian, dès que la collègue a enlevé la poche, je me suis dit, là, c'est une allergie. Direct. Et donc, j'ai dit, on va changer le matériel. Parce que j'ai été formée sur ça. Et voilà, c'est vraiment mon domaine. Et donc, du coup, je sais les repérer. Pareil pour Ibrahim. J'arrive, je vois la désinsertion. la désincision, c'est une plaie autour de la stomie. Donc, du coup, c'est pas une stomie simple, quoi. On peut pas poser le matériel sur une plaie. Donc, il faut mettre une mèche aquacelle. Donc, en même temps, on a une stomie et on a une plaie. Les choses se compliquent. En même temps, il est douloureux. Et je le vois quand il marche dans le couloir, il tient toujours sa poche. Donc, il n'a pas parlé de ça, mais je le vois souvent dans le couloir, en tenant son collecteur. Donc, du coup, moi, je suis là pour regarder tout ça, en fonction de chaque situation et d'essayer d'apporter les solutions aux patients.
D'accord.
Moi aussi, parce que moi aussi, je tiens ma poche. Parce que, ben, suite à mes expériences où la poche était bien remplie et ça tirait sur le moyen de fixation, parce que, bon, le problème, c'est pas une fixation dans le dur, comme c'est de la colle ou une chose comme ça, donc ça peut se détacher. Donc, on a intérêt à tenir la poche, enfin, psychologiquement, et il faut faire attention à ce que ne se remplisse pas trop rapidement.
C'est préventif, bah,
c'est parce
en fait.
Que c'est assez, le remplissage, ben, c'est là que je découvre que les intestins fonctionnent. C'est pas régulier, ça fonctionne d'une manière aléatoire. Et donc la poche, elle peut rester plusieurs heures pratiquement vide et elle peut se remplir très rapidement.
D'accord,
donc c'est ça qui est à surveiller. Et pour la nuit, bon, après l'autre problème, c'est la nuit, parce qu'on en est à se dire, quand on dort, donc la poche va se remplir, elle va se décoller. Et puis moi, à chaque fois, la majorité des cas, ça a été la nuit où ça s'est décollé. Donc je suis un peu, je surveille ça. Et bon, il faut savoir qu'on peut mettre un collecteur pour la nuit, ce qui est rassurant. Parce que là, on a un collecteur et qui fait que la poche, eh ben, elle se déverse toute seule.
D'accord.
Et donc, on n'est pas amené à surveiller la poche. Parce que moi, me connaissant, j'aurais mis le réveil toutes les heures pour surveiller la poche.
Ouais, et puis ça doit être
donc,
un peu fatigant
rassurant.
Après. Ouais,
voilà, c'est rassurant de pouvoir mettre ça
complètement.
Pour la nuit.
Là, je vous entends parler de poche, de collecteur. Du coup, c'est quoi les différents types, Ibrahim et Christian, de poche? C'est quoi la différence entre un collecteur et une poche? On parle de colle, etc. Pour une personne qui ne connaît pas tous ces mots, c'est quoi en fait tout ça?
Une poche, c'est comme, comment dire, c'est ce qu'on porte régulièrement sur nous. Ça prend à peu près, on va dire, un litre, même pas un litre, quelque chose comme ça, de sel ou de liquide. Et un collecteur, ça prend 2 litres.
D'accord.
Et quand on dort, il vaut mieux avoir un collecteur parce que ça se remplit pendant la nuit.
D'accord.
Et si on ne met pas le collecteur, il est possible qu'on a des fuites dans la nuit et les selles qui touchent la peau, ça commence à faire des dégâts sur la peau.
Donc du coup, c'est ça plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça en termes d'un peu matériel autour de la stomie que vous connaissez
Il faut savoir, quand il faut vider la poche, c'est pas très agréable. Au niveau sensoriel, les odeurs dégagées, tout ça, c'est pas très... Il faut se pincer le nez quand même. Hein. Donc, c'est pas très agréable.
Alors, moi, j'ai quelque chose à dire. Joséphine, je me permets.
Vas-y, non, mais
en parlant de matériel, tout ce qu'ils ont dit, c'est hyper important parce que collecteur, poche, les renforts, tout ça, c'est les dispositifs médicaux pour les patients stomisés. C'est pour ça, c'est bien de travailler avec plusieurs laboratoires parce qu'il y a des patients qui font des allergies à tel ou tel matériel. Donc, si je vois bien, les deux patients qui sont devant nous, ils ont des iléostomies. Donc, les selles sont liquides. Hein. C'est pour ça qu'on parle de collecteur. Donc, il y a des poches vidables. Pour les patients qui ont des colostomies, il y a des poches fermées. Pour des patients qui ont des colostomies gauches, il y a des poches haut débit. Pour des patients qui ont des iléostomies, et les poches haut débit aussi, et vidangeables, pour des patients qui ont des urostomies.
Donc en fait, il y a plein de choses.
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, il faut savoir les répertorier pour choisir le bon matériel pour le patient.
Ouais. Et voilà. Comment c'était pour vous, Ibrahim et Christian, quand d'un seul coup, vous avez une stomie et on vous donne tous ces mots, tout ce vocabulaire. Comment vous avez vécu ça, vous?
Alors, je vais vous dire exactement ce qui m'est arrivé. J'en rigole même là, en y pensant. C'est que j'ai été pris en main par une professionnelle comme Aline. Dès le début, ça s'est très, très bien passé. C'était très carré. Je n'ai pas eu de douleur. C'était parfait. Sur le coup, j'avais une poche. Je regardais comme ça, mais j'étais bien pris en charge. Ça s'est très, très bien passé de ce côté-là. Comme je le dis, si on est accompagné d'une professionnelle de stomathérapeute en tant qu'infirmière, on n'a aucun problème. Tout se passe très, très bien. Ils voient tout. Et si quelqu'un... Moi, j'ai été hospitalisé. Ensuite, j'ai passé 4 jours à la maison. Et une infirmière libérale a fait les soins, les pansements, a pris en charge mes problèmes, mais elle n'était pas formée en stomie. Elle ne savait pas faire les pansements. J'ai les acides des sels qui m'ont brûlé toute la peau. En 4 jours, je ne pouvais même pas bouger comme ça. Je suis arrivé ici, j'avais des douleurs partout. Aline, elle me dit, laisse-moi travailler, je sais ce que j'ai à faire. J'ai dit, ok, mais j'ai mal. Mais là, j'ai plus mal, je me sens beaucoup mieux. C'est important.
Il est arrivé, pardon, pour répondre juste à sa question, il est arrivé, il était tellement inquiet parce que l'expérience vécue à la maison l'a traumatisé. Donc, il est arrivé, il était vraiment en panique. Je lui ai dit, à chaque fois, je lui dis, franchement, faites-nous confiance, laissez-nous faire, vous allez voir, vous allez être content. Et là, à chaque fois que je le vois dans le couloir, il me dit, je suis content.
Non, voilà. C'est beaucoup mieux maintenant.
Et pour vous, Christian, comment c'était pour vous?
Moi, c'est, ça n'a pas été compliqué, parce que je me suis retrouvé assez rapidement en réanimation.
Oui, oui.
Et donc, j'avais d'autres soucis. La poche, c'était du secondaire.
Oui, ça arrivait après.
Parce que la poche, je l'ai eue pendant ma réa, parce que suite aux infections que j'ai eues, donc je me suis évanoui. Donc, j'ai eu un évanouissement. Et je me suis réveillé avec la poche, parce que j'ai été pratiquement 15 jours en réanimation.
Ah oui,
et
oui.
Donc, c'était secondaire. Maintenant, par contre, maintenant, je suis classifié maison de repos pour moi. Suite à l'hôpital, hein, où j'ai été opéré à Béclair. Et donc maintenant, mon souci, c'est comment je vais sortir. Je sors début juillet d'ici. Et donc là, je vais être obligé de faire venir une infirmière. Mmh. Et ça, c'est un peu ça mon souci, quoi.
Ok, trouver
l'infirmière pendant 3 mois. Je vais être soumis à des soins infirmiers, parce que j'imagine que le remplacement du support, c'est une infirmière. Donc, il faudra faire venir une infirmière tous les 3 jours.
Voilà,
j'en suis là, d'après ce que j'ai compris.
C'est ça. En fait, quand vous allez sortir d'ici, moi, je vais faire une ordonnance pour tout ce qu'on utilise ici, parce que je sais qu'il y a des choses qui vous donnent des allergies. Donc, je les ai déjà notées. Donc, je fais l'ordonnance avec tout ce qui est bien sur votre peau. Vous allez partir avec cette ordonnance. En même temps, l'assistante sociale va vous trouver une infirmière à domicile. Et cette infirmière va faire vos soins à la maison. Donc, vous n'êtes pas seul. Et sur mon ordonnance, il y a mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler à tout moment. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est tout ce qui sera fait à la maison. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Mais elles essayent de faire de leur mieux. Les infirmières libérales.
Sachant que je veux absolument sortir de la région parisienne le plus rapidement. Et mon but, c'est aller en Bretagne. Donc, l'infirmière sera à trouver là-bas.
Voilà. Et moi, je vais trouver une prestataire très bien aussi.
Tout le monde entier. On vous souhaite, en tout cas.
Parce que ça demande du matériel, effectivement.
Mais ouais.
Donc, faut pour se fournir, la poche, ça sera tous les 3 jours.
Oui.
Donc, et puis le récepteur, c'est tous les jours ou...
Alors, en fait, quand il n'y a pas de complications, c'est tous les 3 jours. Le support,
c'est-à-dire... On change la poche tous les 3 jours,
voilà,
c'est ça?
Voilà, la poche tous les 3 jours.
Mais la poche, est ce qui va sur... parce qu'il faut voir qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément qui se fixe sur le ventre, par collage, donc, parce qu'on a déjà quelque chose en dessous, on a déjà quelque chose de définitif, enfin, dans le ventre. Et donc après, il faut monter la poche pour la centrer, pour avoir une étanchéité parfaite. Et après, ensuite, il y a la poche qui vient se greffer par clipsage sur le support.
Ah, je comprends mieux, d'accord.
Tu comprends, Joséphine?
Mais ça veut dire que cette poche-là, que vous clipsez, vous la videz tous les 3 jours.
C'est elle qu'on vide.
D'accord,
en fin de compte, il y a 3 éléments.
Alors,
dans une somme.
Je vais intervenir.
Ou alors, je n'ai pas tout compris.
Non, en fait, quand on fait les soins de stomie, déjà, on regarde l'état cutané, il faut que ça soit vraiment propre, il ne faut pas qu'il y ait des plaies et tout ça. Donc, on va prendre l'exemple d'une peau saine. D'accord? Donc, je change le matériel. Le jour où je vais changer le matériel, je regarde tout ça, les complications, je vais vous montrer tout ça. On nettoie la peau, on sèche bien la peau. On protège la peau avec un protecteur cutané parce que vous avez parlé d'acidité tout à l'heure. Les sels sont acides. Donc, on protège la peau avec un protecteur cutané. On attend un peu que ça sèche. On va poser l'anneau parce que l'anneau, c'est aussi un protecteur cutané qui empêche les sels d'aller sur la peau. Après avoir posé l'anneau, adapté à la taille de la stomie, évidemment, on va poser le support qu'on découpe à la taille de la stomie. On pose. Et ensuite, on va mettre la poche. Si c'est une pièce, 2 pièces, vidable, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on va poser. Maintenant, moi, ce que je conseille aux patients, quand vous rentrez à la maison, changez la poche tous les jours. Parce qu'ici, à l'hôpital, nous, on est là pour surveiller. Mmh. Mais à la maison, le support va rester sur votre peau 3 jours. Mais la poche, on peut la changer. Ça se déclipse. Okay. On enlève, on nettoie, on remet une autre poche et c'est propre. Mmh. Et dans toutes les poches digestives, il y a toujours un filtre à charbon pour les odeurs. Si un jour, vous voulez prendre votre douche avec votre poche parce que vous n'avez pas envie de l'enlever, il y a dans les boîtes, il y a des pastilles pour obstruer l'orifice du filtre. Donc, on met ces pastilles pour que l'eau ne rentre pas dans la poche. Mmh. Ça aussi, c'est faisable. Si un jour, vous êtes fatigué, vous ne voulez pas le changer, voilà. Donc, en fait, c'est au cas par cas, mais à chaque fois qu'il y a une sortie de patient, je détaille tout ça.
Mmh, ok.
Donc, voilà.
D'accord. Ibrahim, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais dire quelque chose qui est important, parce que moi et Christian, on a la même stomie.
D'accord.
C'est une héliostomie, je crois. Et ce qui se passe, c'est que c'est vraiment liquide. Et si c'est pas vraiment imperméable, même si c'est pas très bien fait par un professionnel, quelqu'un qui est formé pour faire ça, le liquide se propage sur la peau et les acides, ça brûle.
Oui, c'est
vraiment très douloureux. Mmh. J'ai vécu ça, c'est pour ça que je sais c'est
quoi.
Vous
savez ce que c'est que du vivre ça, ouais, ça doit faire, ça doit être très douloureux.
C'est très douloureux. Mmh. J'ai été pris en charge par une stomathérapeute, Delphine d'ailleurs. Ça se passait très bien, je ne savais pas que je pouvais avoir ce genre de douleur. Je n'étais pas conscient et j'ai découvert ça comme ça. C'est, honnêtement, ça fait très mal. Hein.
Oui. Vous voulez dire quelque chose,
pour
Christian?
Pour ma part, je partirais... Enfin, c'est une douleur aussi, mais c'est surtout de la démangeaison. Quoi. Avoir envie de se gratter et ne pas pouvoir le faire, c'est une torture.
Oui, ça se fait.
Mais ce n'est pas de la douleur, pour ma part.
D'où l'intérêt de protéger la peau.
Ok, d'accord. Très bien, c'est super intéressant comme conversation. Et du coup, avec Quentin et Aline, on a préparé un peu les idées fausses qui entourent la stomie, des clichés qu'on peut avoir quand on ne sait pas ce que c'est. Ce que je vous propose, c'est de vous donner une première idée fausse et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Est-ce que votre avis, c'est faux, c'est vrai? Est-ce que vous vous reconnaissez dedans ou pas? Est-ce que, voilà, c'est une énorme bêtise de dire ça? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un peu de vérité? Ok? Alors, première idée fausse, on ne peut pas porter tous les vêtements que l'on veut quand on a une stomie. Selon vous, monsieur, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Pour ma part, c'est faux.
C'est-à-dire?
On peut porter ce qu'on veut, il n'y a aucun problème.
Ok.
Ça se passe très très bien, je peux porter ce que je veux. Tant que ça ne fuit pas, ça peut arriver ce genre d'accident, mais on peut tout porter, il n'y a aucun problème.
Ouais.
Aucun problème.
Christian.
Le seul bémol, on peut tout porter parce que, bon ben là... je suis habillé normalement, on va dire. Ce que je fais attention, c'est porter un polo qui soit assez long, quand même, pour la cacher.
Oui, c'est...
Pour éviter quand même les regards, parce qu'on peut toujours avoir des regards ou des questions. Mmh. Si on veut éviter les questions ou les regards,
d'accord,
c'est porter un vêtement, un t-shirt ou un polo suffisamment long pour cacher le... cacher.
C'est plus par rapport à l'aspect regard des autres et esthétique
c'est
au final.
Raison,
mais
oui.
En termes de gêne, vous pouvez porter n'importe quel vêtement?
Oui, parce que si on porte un pantalon et qu'on a une ceinture, ben c'est situé sous la ceinture, au-dessus de la ceinture.
D'accord.
Donc on peut mettre une ceinture, on peut s'habiller normalement.
Okay.
Ça aurait été gênant si c'était au niveau de la ceinture ou à la limite, on aurait porté des bretelles, mais donc là, ça va.
Ok, Aline.
Mais moi, je suis très contente parce qu'ils ont bien répondu. Non, on peut porter tout ce qu'on veut. L'essentiel, c'est d'éviter quand même tout ce qui est vêtements trop serrés.
Mmh.
Voilà, quand c'est trop serré, ça peut comprimer la stomie. Et puis la ceinture, c'est vraiment très très bien. C'est en dessous de la stomie parce qu'il ne faut pas que ça soit sur la stomie parce que le cisaillement peut entraîner des hémorragies.
D'accord.
Et des complications. Donc ça, c'est juste ça, sinon on
faut juste faire attention.
Et aussi, il y a des couvre-poches. Donc, les couvre-poches, c'est un prestataire qui l'a fabriqué. En fait, il y a des sociétés qui ont fabriqué ça. Il y a beaucoup qui fabriquent ça. Et on peut cacher sa stomie si on n'a pas envie. Si vous avez un débardeur et que vous voulez, vous êtes à la plage et vous avez peur que le t-shirt se soulève, il y a des couvre-poches pour cacher.
D'accord.
Mais c'est vraiment au cas par cas.
C'est ce que j'avais envisagé à ma sortie,
voilà,
de trouver quelqu'un qui me fabrique une poche.
Ah ben moi, j'ai tout. Moi j'ai toutes les adresses.
Trop bien.
Voilà.
Quentin, une idée fausse que tu avais eue.
C'était avoir une stomie, c'est être limité dans son alimentation et dans l'activité physique.
Pour vous, messieurs, est-ce que
vous en pensez?
Avant
Avoir une stomie.
Avoir une stomie.
Avoir, pour l'instant, dans les premiers jours, on est limité en nourriture, puisque les repas sont aseptisés, je dirais. Et après, là, je n'ai pas le sentiment d'avoir une nourriture limitée.
Ouais, vous pouvez manger ce que vous voulez, quoi.
Oui. Ça, il n'y a rien de contre-indiqué.
Bah, pour l'instant, on m'a pas. J'attends la sortie pour qu'on me dise est-ce que je peux manger un steak frites tous les jours ou des trucs comme ça. J'attends qu'on me donne quand même quelques consignes de nutrition. Parce que je pense qu'il y a peut-être un régime particulier à avoir.
Exactement.
Je m'attends à ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment.
Ouais. Et pour vous, Ibrahim, dans l'activité physique, par exemple, le sport, l'alimentation, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous après avoir une stomie?
Un petit peu quand même au niveau du ventre, l'abdomen. Quand je fais des séances de kiné, on ne peut pas travailler à ce niveau-là pour le moment. Ou sinon, je suis vraiment autonome, je peux tout faire. Il n'y a aucun problème. Au niveau nutrition, j'évite la salade, parce que le côté digestif, c'est un peu compliqué. Et les légumes, j'ai commencé à manger ici. Auparavant, je n'ai pas mangé de légumes.
Vous ne mangez pas de légumes avant?
Ah non, je ne mangeais pas. À Beaujon, je n'en mangeais pas.
D'accord, ok. Donc c'est venu progressivement.
Progressivement, voilà.
D'accord,
c'est exactement ça. Sinon, ça va, tout va bien maintenant. On arrive à s'habituer, au bout de 2 mois, c'est... Quand il n'y a pas de problème au niveau de la stomie, c'est excellent qu'on ne sent plus rien, qu'on est pris en charge correctement, tout va bien.
Aline, du coup.
Okay. Alors, du coup.
Point de vue d'expert. Bah,
pour les deux, l'activité physique et l'alimentation. Je commence par l'alimentation. Mais souvent, les patients peuvent manger ce qu'ils veulent. Heureusement qu'il y a les diététiciennes qui travaillent très, très bien dans ce domaine. Chaque patient a son régime adapté. Il y a des choses.
Ah, ok.
Voilà. Il y a des choses. C'est pas qu'ils ont une interdiction de manger, mais c'est limité. D'accord? Ils peuvent manger, mais avec une quantité mais hyper réduite. Parce que je prends l'exemple des patients qui ont une iléostomie. Quand on prend des repas qui vont fluidifier les sels, eh bien, ça, c'est pas bien. En fait, quand il y a trop de sel liquide, parce qu'on a un débit, c'est entre 800 et 1500 millilitres en 24 heures. Donc, il faut que tout soit coordonné. Le patient a un régime spécifique. Si c'est une iléostomie, colostomie, ce n'est pas le même régime. Si c'est une urostomie, ce n'est pas le même régime. Et ça, c'est le travail des diététiciennes. C'est pour ça que les diètes sont tout le temps dans vos chambres pour vous poser des questions. Et les repas, le régime, le repas de chaque patient, c'est fait en collaboration avec la cuisine. Donc, ce n'est pas pour rien que vous, dans votre chambre, vous avez tel ou tel aliment dans votre plateau. Et vous avez autre chose. Tout est calculé.
Oui, c'est très personnalisé en fonction de ce que vous avez.
C'est très personnalisé. En tout cas, du moins, vous êtes encore hospitalisé chez nous. On fait beaucoup attention par rapport au régime.
D'accord.
Pour éviter les complications.
Et au retour à domicile, ça se passe
comment? Le retour à domicile, il y a toujours l'ordonnance qui est faite. Et quand le patient part à la maison, moi, j'ai dit tout à l'heure, je travaille avec les médecins généralistes. Mais je suis au courant de beaucoup de choses. Il m'est déjà arrivé de recevoir une patiente en consultation. Et j'ai posé des questions à la diététicienne ici parce que le régime qu'elle avait en partant de l'hôpital, elle ne voulait plus du tout. Elle est revenue avec une complication, mais je ne savais même pas par où commencer. Donc, j'ai appelé la collègue, elle a refait un régime. Donc, c'est hyper important, même à la maison,
de respecter quand même.
De respecter, en attendant le rétablissement de la continuité. C'est très, très bien de respecter.
Okay.
Maintenant.
Avec une attention particulière, c'est que la nourriture en hôpital reste ce que c'est. Et que là, on peut avoir des rêves. On peut avoir des rêves de repas, de choucroute,
de steak frites,
des choses comme ça. Et effectivement, il faudra se limiter. Il y a peut-être le risque, justement, de s'en mettre, comme on dit, plein la gueule, en sortant et sans faire attention à ce régime.
Oui, un peu l'effet élastique. On se limite pendant longtemps et après...
À force d'être limité et d'avoir des repas qui ne sont pas forcément excellents, de se jeter sur tout ce qui...
Oui, il faut faire attention quand même.
J'imagine qu'il faudra que je fasse attention.
Il y a un petit suivi à faire.
Une discipline, je dirais.
Très bien. Moi, j'ai une...
Vas-y.
Je regarde.
Oui, bien sûr.
j'ai une dernière question aussi autour de la vie affective et sexuelle quand on a une stomie. J'ai entendu des idées fausses comme quand on disait quand on a une stomie, on peut plus avoir de vie sexuelle ou plus de vie affective ou au contraire on s'empêche un peu d'avoir une vie qu'elle soit sexuelle ou pas, mais en tout cas un peu affective. C'est quoi les retours que vous avez par rapport à ça? Est-ce qu'on vous en a parlé par exemple quand vous avez votre stomie ou pas trop? Est-ce qu'on vous a un peu renseigné?
C'est plutôt moi que j'ai réfléchi à ce sujet.
Ah, vous y arrivez, ok.
Ouais, non, comme c'est une période de 2-3 mois, on essaye de
rester... Quand c'est temporaire, c'est pas la même chose, j'imagine, bien sûr.
Ouais, On reste sage, on va dire, voilà.
Ok.
Ça se passe bien, hein, c'est pas...
Mais en tout cas, on vous a renseigné, par exemple, par rapport à ça, ou même ou pas forcément ?
Pas du tout.
Après, peut-être, j'imagine, quand c'est temporaire, c'est bon, on ressent moins le besoin de faire une prévention par rapport à ce sujet-là, effectivement, ouais.
Mais même après l'opération, ça prend du temps encore, ça ne se rétablit pas tout de suite. Hein.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ça prend moins de 2 mois, c'est ça, hein.
Deux à trois mois, ça dépend. Ouais. Des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois.
D'accord, ça dépend vraiment de chacun.
Voilà.
Okay.
Mais moi, je dis souvent aux patients 3 à 6 mois. Comme ça, on est large.
Ouais, je pense que ouais, c'est 3 à 6 mois. Moi aussi, j'appréhende. Je pense que ça va être ça.
D'accord. Voilà. Aline, du coup, est-ce qu'on peut avoir quand même une vie sexuelle
Bien sûr. Déjà, l'appareil génital est séparé de l'appareil digestif et séparé de l'appareil urinaire. Donc déjà, sur ce point, on peut avoir une activité sexuelle sans problème. Déjà, il faut que la conjointe ou le conjoint soit d'accord. Que ça ne la dégoûte pas le ou là, hein. Que la personne ne soit pas dégoûtée.
C'est ça. C'est
mais ça. Sinon, ben, ça ne change rien du tout. Je me rappelle, une fois, on avait reçu une patiente qui était enceinte. Ici, à l'hôpital Gouin, elle était enceinte, mais avec une stomie.
Tu peux être enceinte avec une stomie,
oui,
du coup ?
Oui, bien sûr, ça ne change rien du
tout.
Mais
ça veut dire que, c'est par exemple, si tu veux décides d'être enceinte, tu prévois un petit peu
sûr.
En amont.
Ah, bien
quand
sûr.
Même. Ouais, ouais,
ah, bien
quand
sûr.
Même là, ouais.
J'ai aussi une patiente qui est venue en consultation, je crois, il y a 2 ou 3 ans, elle était enceinte.
Okay.
Elle a une stomie. Donc, ça ne change rien du tout.
D'accord.
Voilà.
Ah, je ne pensais pas qu'on pouvait tomber enceinte avec une stomie.
Bien sûr, bien sûr. La vie ne s'arrête pas là. Hein.
Mais c'est rassurant, en fait, d'entendre toutes les choses qu'on peut faire avec une stomie, qu'elle soit temporaire ou définitive. Moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de hyper handicapant, qu'on ne pouvait plus rien faire.
On peut vivre avec la stomie, hein, avec tout ça. Mais tout ce que j'ai appris, moi, j'étais étonnée. Quand j'étais à l'école de stomathérapie, parce que je ne savais pas tout ça. Mais oui, on peut vivre avec une stomie.
Je voulais parler à ce sujet.
Oui, bien sûr, allez-y, Brim.
C'est que je me verrais... Peut-être que je ferais une dépression si je vis avec ça. Je ne vois pas vivre avec
le
ça.
Le moral, un peu, c'est important aussi. Ouais.
Ça va prendre. Et je vis tous les jours. Ça ne va pas m'empêcher de vivre, mais psychologiquement, je pense que... Ça ne serait pas facile dans les débuts.
Bah ouais, c'est pour ça que c'est important d'être entouré par des professionnels, stomathérapeutes, psychologues, etc. C'est important.
Oui. A priori, on vit avec un objectif, c'est de s'en séparer, nous. On n'est pas définitif. Hein.
Ouais.
Donc c'est un peu différent. On n'a pas la même approche, je crois.
Bah écoutez, moi je vous propose, pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous transmetteriez comme message aux gens qui... ne connaissent pas la stomie ou qu'ont une stomie, quel serait un mot que vous voudriez faire passer
Faire confiance aux professionnels et tout ira bien. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire.
Ok, super, merci. Et pour vous, Christian ?
Moi, c'est pour quand on rentre à l'hôpital pour une stomie, c'est se renseigner avant, de voir tout ce que ça entraîne. À la limite, il faudrait presque une formation, une information avant. Parce que moi, je suis rentré à l'hôpital sans savoir ce que c'était et sans avoir le but de l'avoir. Et donc, ça a été ma grosse surprise. Donc, une information avant, s'informer avant, je pense.
Okay. Du coup, pour toi, Aline, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aux
Alors, ce que je vais faire passer comme message, déjà, nous, les professionnels, on est là, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que la stomathérapeute, il y a tout le monde. Il y a la kiné, il y a la diététicienne, il y a la psychologue. Tout le monde est là pour vous, même si vous sortez de l'hôpital. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des associations des patients stomisés. Que vos stomies soient temporaires ou définitives, il y a des associations, il y a des groupes de patients stomisés, il y a des professionnels de santé à l'extérieur, il y a des sites sur lesquels vous pouvez aller dans les brochures, les revues que je vous donne à la sortie. Parce que vous partez avec une trousse et il y a toujours des brochures dedans. Il y a toutes les adresses. Et vous pouvez nous appeler, que ce soit moi ou l'hôpital, n'importe qui, pour avoir des informations. Vous n'êtes jamais seul. Voilà. Donc,
vous n'êtes pas seul. C'est une bonne conclusion pour cette émission. En tout cas, merci beaucoup et bravo à toutes et à tous d'avoir participé. Franchement, vous êtes très radiophonique pour des personnes qu'on n'a jamais fait. Félicitations. J'espère que ça vous a plu comme expérience, en tout cas. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.
Merci, Josephine.
Bravo, merci, bonne journée.
Merci, Brahim, merci, journée. Christian.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Gouingouin, pour rester serein.